Et du coup, je vous propose de passer au point suivant, qui est le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Monsieur Scheuer.
Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Le débat d'orientation budgétaire est un temps fort de la vie de notre collectivité et c'est le dernier de ce mandat. Il précède le vote du budget qui interviendra après les élections municipales. Le rapport qui vous est soumis fixe le cadre de la continuité financière sans préjuger des arbitrages de la future majorité. Je rappelle le choix assumé de débattre de ces orientations à cette date et le vote du budget dans quelques semaines, à l'instar de nombreuses communes, afin d'être dans un contexte toujours marqué par des incertitudes, le plus proche de la réalité financière, sachant que la loi de finances 2026 a été adoptée il y a quelques jours à peine. Ce calendrier permet une préparation budgétaire sincère, établie sur la base d'une information fiable, reposant sur une vision précise des réalisations de l'année écoulée, tout en maîtrisant les perspectives de l'année en cours. Je tiens une nouvelle fois à souligner la qualité du document qui vous a été transmis et commenté lors de la réunion plénière de lundi soir. Le rapport est extrêmement bien documenté et permet à chacun de se projeter sur l'année en cours. Je souhaite à cet instant remercier le directeur général des services, M. Alexandre Vincent Baume, et l'ensemble de ses services, ainsi que mes collègues élus qui ont participé aux travaux préparatoires. Je remercie particulièrement le directeur des finances, M. Reinhardt, et son équipe pour la qualité de leur travail et de nos échanges. Les orientations budgétaires de 2026 s'inscrivent dans une stratégie financière claire et transparente qui repose d'une part sur quatre piliers essentiels, un objectif d'épargne de gestion fixé au minimum à 2,7 millions et un taux de CAF qui ne doit pas descendre en dessous de 8%. Deuxièmement, un endettement adapté et une capacité de désendettement de bonne facture. Troisième pilier, le maintien du cap fixé en investissement avec un niveau sans précédent. Enfin, sans augmentation de nos taux d'imposition, conformément à notre engagement. D'autre part, une stratégie financière qui répond à deux objectifs. Le premier, c'est la garantie et l'amélioration continue d'un service public de qualité et la préservation des moyens accordés aux services municipaux. Je vous propose une présentation synthétique. Pour commencer, partageons quelques éléments de contexte nécessaires à la préparation budgétaire. Rappelons que nous subissons et avons subi depuis 2020, directement ou indirectement, différentes crises sanitaires, énergétiques, inflationnistes, politiques et géopolitiques. L'année 2025 a été une nouvelle fois marquée par un environnement chahuté dont les répercussions sont significatives pour l'économie en général et les finances publiques en particulier, avec pour incidence une pression exercée sur les finances des collectivités locales. Celles-ci sont mises à contribution à hauteur de 2 milliards d'euros. Pour notre ville, on peut citer par exemple une baisse de la dotation forfaitaire de 92 000 euros dans le cadre du gel de la dotation globale de fonctionnement. Alors, quelle est la situation financière prévisible de la ville à la fin de l'exercice 2025 ? Nous affichons, en dépit d'un contexte dégradé, une situation saine et maîtrisée dans la continuité des exercices précédents, avec un très bon niveau de l'ensemble des ratios de solvabilité. L'épargne de gestion s'établit à un niveau élevé, d'un peu plus de 4 millions d'euros. Les recettes de gestion en légère hausse sont de 31 millions d'euros. Les dépenses de gestion ressortent à 27,3 millions d'euros, en hausse de 1,6 million. L'évolution la plus importante est due aux charges de personnel qui augmentent de 852 000 euros. Sur ces 852 000 euros, 318 000 euros, soit 40%, sont imputables à des mesures décidées par l'État. On peut noter l'augmentation du taux de la caisse de retraite des agents de la collectivité. Le reste de l'évolution est lié à des mesures prises par la ville pour des besoins bien identifiés. On peut citer une fréquentation en hausse pour le service public à l'enfance et l'augmentation des cotisations de mutuelle santé avec une participation en hausse de la ville au bénéfice de ses agents. Les autres charges courantes ressortent à 4,4 millions, en progression de 618 000 euros, progression liée notamment par la compensation versée par la ville aux délégataires pour la gestion des structures d'accueil de la petite enfance, une subvention versée à la SPL Iliade pour un peu plus de 2 millions d'euros et une évolution de 231 000 euros, et la subvention versée au CCAS pour 222 000 euros. Ainsi, la CAF, qui est la capacité d'autofinancement, s'établit à un niveau très satisfaisant de 4 millions d'euros et le taux de CAF est solide à 13%. Alors, grâce à ces bons résultats et à une politique de désendettement volontariste, la capacité de désendettement demeure à un niveau exceptionnellement bas, avec une durée de 0,6 années, et l'endettement par habitant est de 82 euros. Et en parallèle, le niveau d'investissement a une nouvelle fois progressé pour dépasser les 9 millions d'euros. On est bien sur un mandat offensif en termes d'investissement. L'ensemble de ces résultats ont été obtenus sans augmentation des taux d'imposition. Au global, à la fin de l'exercice 2025, on a un résultat de clôture de 9,5 millions repris pour financer les investissements de 2026. Et à la fin de cet exercice 2025, la ville affiche une très bonne santé financière. Passons à présent aux orientations budgétaires de 2026. Ces orientations reposent sur une stratégie claire, transparente, responsable et tournée vers l'avenir. Je le disais, aucune augmentation des taux d'imposition, un niveau d'épargne attendu de gestion de 2,7 millions minimum, et l'objectif en termes de CAF se situera autour de 3 millions d'euros avec une valeur plancher intangible de 2,4 millions. Et le taux de CAF devra être stabilisé autour des 10%. L'endettement, il est prévu de ne pas recourir à l'emprunt jusqu'à la fin de ce mandat. Alors, un programme d'investissement important, il convient de noter qu'avec une nouvelle enveloppe de 10,8 millions d'euros en 2026, avec la poursuite des projets qui ont été déjà lancés, et bien sur l'ensemble de la mandature 2020-2026, ce sont ainsi plus de 50 millions d'euros d'investissements qui auront été financés et injectés dans l'économie de notre territoire. Alors, on peut citer un certain nombre de faits. Alors, l'année 2026 va être une nouvelle année de réalisation qui est marquée par la poursuite de grands projets qui sont engagés. On notera le chantier de l'Arena. Une enveloppe de 6 millions d'euros sera consacrée en 2026 à cet équipement. Le budget 2026 prévoit également 1,2 million pour la poursuite de l'aménagement du site de la FAIG, ce qui permettra la réalisation de 2 demi-terrains avant la conception d'un bâtiment vestiaire complémentaire. La sécurité et la prévention demeurent nos priorités. Eh bien, on poursuivra le déploiement de la vidéoprotection avec une enveloppe de 530 000 euros dédiée au financement des 2 premières tranches du programme. À son achèvement, ce dispositif couvrira au minimum 52 zones d'implantation et apportera au moins 250 vues supplémentaires. L'amélioration du cadre de vie, on citera le secteur de la Schlossmatt, qui bénéficiera d'une seconde enveloppe de 50 000 euros afin de lancer des études opérationnelles nécessaires à sa requalification. Le projet, vous le savez, vise à reconquérir les berges de l'île, à créer un axe de vie structurant et végétalisé. Alors, une première étude urbaine et un atelier citoyen se sont tenus début 2025 et ont permis d'associer les habitants à la nouvelle conception de ce parc urbain. La végétalisation des cours d'école se terminera en 2026 avec 250 000 euros destinés aux cours des écoles maternelles de l'Orme et de Liberman. Au parc Girnenich, une enveloppe de 150 000 euros sera dédiée et permettra l'installation d'un équipement de type pump track. Et dans un deuxième temps, on créera un grand animal, possibilité de créer donc un grand animal en bois pour le parc Friedel. 60 000 euros sont par ailleurs prévus pour le remplacement des structures dans les aires de jeu déjà existantes dans les différents secteurs de la ville. 290 000 euros destinés aux travaux et aux équipements, y compris numériques, toujours au bénéfice de nos écoles. Il est également prévu cette année 85 000 euros en investissement destinés à la rénovation des serres existantes sur le site de l'IPAM et à la sécurisation du site de la ferme urbaine. En parallèle, 305 000 euros seront inscrits pour l'acquisition définitive auprès de l'établissement public foncier du terrain de la Schlossmatt, qui a vu donc en 2025 la création d'un jardin pédagogique destiné aux élèves des écoles de la ville. On citera également la modernisation des équipements municipaux qui se poursuivra avec 236 000 euros qui sont dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments et 200 000 euros mobilisés pour sécuriser l'infrastructure informatique. Au total, Plus de 10,8 millions d'euros de nouveaux investissements sont donc programmés. Et ce sont plus de 14 millions d'euros qui sont consacrés au territoire ainsi qu'à ses habitants en intégrant les reports de crédit. Alors, parallèlement à ces investissements majeurs, la ville entend maintenir la protection du pouvoir d'achat de ses habitants. Et conformément aux engagements pris, il n'y aura donc pas d'augmentation des taux d'imposition. Les dispositifs d'aide directe aux habitants seront également reconduits. On citera l'aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, l'aide dédiée aux alarmes anti-intrusion, ainsi que l'aide à l'acquisition d'un dispositif de lutte contre les moustiques tigres. On maintiendra également l'ensemble des subventions qu'on a évidemment fléchées. On peut également citer le Centre d'action sociale et on reconduira un montant de 230 000 euros. Enfin, la ville poursuivra son soutien à son délégataire afin de faire face aux conséquences financières liées aux oubliés de Ségur, j'en parlais tout à l'heure, ainsi que la participation à la SPL de l'Iliade. Un mot sur les recettes de fonctionnement. Les recettes de gestion ont progressé de 2% de budget à budget et le produit de la fiscalité directe locale est projeté à 16 millions d'euros. Et on peut citer que l'évolution attendue résulte de la dynamique des bases fiscales et dont le taux s'élève après des années qui étaient assez fortes de 0,8%. Un avant-dernier point qui est relatif aux ressources humaines. Nous avons des perspectives 2026 en termes de dépenses qui doivent tenir compte d'un contexte national qui continue à impacter lourdement la masse salariale. D'ailleurs, toutes les collectivités sont confrontées à ces hausses. On le disait tout à l'heure, la poursuite de la hausse des cotisations des caisses de retraite. Une charge supplémentaire est évaluée à 200 000 euros pour 2026. À cela s'ajoutent notamment des revalorisations de points d'indice, des revalorisations salariales successives liées aux hausses du SMIC. Cela nécessite de poursuivre un suivi régulier, rigoureux de la masse salariale et des efforts de gestion au quotidien. Alors, à cela s'ajoutent des mesures prises notamment par la ville, et M. le maire en parlait tout à l'heure, notamment la déprécarisation d'un certain nombre d'agents. Pour terminer, un mot de la dette. Alors, au 1er janvier 2026, l'intégrité de l'encours de la dette de la ville est classée A-1 en fonction des critères de la charte de bonne conduite qui correspond au niveau le plus faible en matière de risque financier. La ville s'est désendettée de manière importante en décembre 2023 et le montant de l'endettement par habitant, je le rappelle, est de seulement 82 euros. En conclusion, Monsieur le maire, dans un contexte toujours contraint, les orientations budgétaires que nous proposons sont fortes et cohérentes. Nous sommes les garants d'un cap stable et solide grâce à un budget calibré qui ne renonce à rien. Tout ce qui a été engagé se poursuit et se développe au service de l'attractivité de notre ville et au service des îles Kirchois. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Scheuer. Alors, effectivement, comme vous le disiez, on est dans un exercice un peu particulier puisqu'on arrive au terme d'un mandat, donc on projette un certain nombre de choses. Le budget viendra les confirmer ou les modifier au mois d'avril, puisqu'il y a une date qui a été retenue, en tout cas le 4 avril, pour le budget, mais on verra ensuite ce qu'il en sera. En tout cas, je voudrais insister sur le fait qu'on est au terme d'un mandat quand même où il y a eu de très nombreux investissements. Si on prend l'ensemble des investissements qui sont aujourd'hui lancés, on sera à plus de 50 millions d'investissements, ce qui est quand même un mandat très fort. D'ailleurs, on le voit par rapport aux courbes du mandat qu'on peut comparer juste avant, avec des équipements structurants. On parlait du hall des sports qui sera livré au troisième trimestre de cette année et qui permettra de libérer du foncier au Cercle Saint-Symphorien, sur lequel se projette avec les dirigeants du Cercle une résidence senior, dont d'ailleurs l'appel à projet a été lancé par le Cercle pour la cession foncière et la réalisation de la résidence senior. Ça a été publié début janvier par le Cercle Saint-Symphorien, puisque la ville, dans ce cadre-là, accompagne le sujet de la résidence senior, mais n'est pas le porteur de projet principal. Néanmoins, ça serait intéressant, puisque dans les orientations budgétaires et dans la construction du budget, il y a la prise en compte sur la résidence senior du Cercle de pouvoir récupérer un certain nombre d'équipements structurants pour la ville, hein, en VFA, hein, en vente en l'état futur d'achèvement, notamment pour pouvoir y mettre une crèche, la crèche familiale qui est située actuellement avenue Mesmer, qui permettrait d'être dans des locaux villes, une restauration scolaire pour les élémentaires de l'école du centre, hein, puisque vous savez aujourd'hui le nombre de bénéficiaires de la restauration scolaire qui augmente chaque année, et donc la tension qu'il peut avoir sur certains sites historiques tels que la salle des fêtes ici, donc ça permettra un petit peu de désaturer, et d'avoir le nouvel espace des aînés de la licorne, hein, qui jusqu'à présent, et ça a été tout un travail mené aussi dans ce cadre-là, jusqu'à présent occupe des locaux d'Habitat de Lille avec à peu près un loyer à 80 000 euros, et qui permettra de mettre cet espace renouvelé avec les activités qui ont été augmentées, hein, durant ce mandat, dans un espace appartenant à la ville. Donc ça, c'est un projet assez structurant. La FAIG et donc le club a été vu un certain nombre de fois, et donc on est en train de travailler avec eux, puisque les deux demi-terrains doivent être réalisés pendant la période estivale. Donc ça sera deux demi-terrains qui permettront de faire un certain nombre d'activités, complétées par des vestiaires, avec ensuite la suite du projet, hein, qui sont dans les APCP, hein. Rien de nouveau, hein, puisque ensuite, derrière, on doit avoir l'extension avec le rachat du foncier d'Alcatel et l'extension avec un terrain complet et une tribune vestiaire, hein, du même type que sur le rugby. Le fait de démarrer aussi les études pour l'agrandissement, la rénovation et la couverture de certains terrains qui ne sont pas aujourd'hui couverts au tennis club d'Ilkirch-Grafenstaden, hein, qui ont été inscrits aussi dans la préparation de ces orientations budgétaires. Après avoir notamment aussi rénové sur le mandat l'ensemble quasiment, hein, des gymnases qui sont sur notre ville, hein, puisque quand on regarde, hein, au Lixembul, l'ensemble des salles ont été rénovées. On a aussi changé un certain nombre d'éléments, notamment le sol au gymnase d'Evine. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'investissements. Quand on parle de sécurité, bien évidemment, il y a cette stabilisation des effectifs de la police municipale à 12 agents, hein, avec une répartition nouvelle, puisqu'il y a eu la mise en place du nouveau planning, et en parallèle la poursuite du déploiement de la vidéoprotection. Alors c'est la première tranche de ce projet de la PCP, hein, puisque une première tranche avait déjà été faite pendant le mandat d'un certain nombre de caméras. Là, on a une nouvelle tranche qui a été livrée le 23 décembre de cette année, hein. Donc je remercie aussi les services qui ont accompagné, et notamment Nicolas Hartzer, notre directeur du numérique, parce que ça a été un projet de longue haleine, puisqu'il y a certes les caméras qu'on voit sur les mâts, mais il y a aussi toute l'ingénierie technique, les réseaux et autres à tirer. Et donc ça, c'est un projet qui se poursuit, hein, dès le début d'année, puisque les équipes sont en ce moment en train de tirer les fils et de mettre en place les nouvelles caméras, ce qui nous permettra quand même d'arriver à plus de 150 vues sur cette première partie, ce qui est quand même pas négligeable. On parlait du cadre de vie. Et effectivement, sur le secteur de l'Achlosmat, les choses avancent, hein, puisqu'on a programmé avec l'Eurométropole de Strasbourg les requalifications des voiries dans le secteur de l'Achlosmat sur l'année 2026, puisque, bien évidemment, avant de démarrer certains aménagements, il y a un certain nombre d'éléments de voirie qui doivent être pris en compte. Et donc, ça sera la première opération sur laquelle ce sera la ville qui prendra la main aussi pour les voiries, hein, puisqu'on a convenu avec l'Eurométropole de Strasbourg de faire une délégation de maîtrise d'ouvrage, ce qui va permettre en fait que la ville pilote l'entièreté, mais ça sera sur du budget Eurométropole. Hein, donc, il y aura des flux financiers entre l'Eurométropole de Strasbourg et la ville d'Ilkirch pour pouvoir mener ces premiers travaux et les études nécessaires, notamment les études opérationnelles par rapport au ponton, qui nécessite un dossier environnemental un peu plus poussé. La fin des végétalisations des cours d'école aussi, puisque ça a été un gros projet sur le mandat, hein, et donc on aura l'école maternelle de l'Orme et l'école maternelle Liberman à 250 000 euros. Hein, donc ça a permis quand même de végétaliser l'ensemble des cours d'école. Il y a encore, parfois sur certaines cours, un peu de travail à faire. Hein, je pense qu'il y aura des reprises à faire, notamment par exemple l'école du centre, hein, où on a été limité par la capacité physique de la cour, puisque la cour est quand même petite par rapport au nombre d'élèves, mais il y a un travail qui peut être fait pour étendre cette cour en récupérant une partie de l'ancienne route qui passe sur le parvis, hein, qui permettrait d'avoir plus de place et justement de transformer aussi cet espace et de renforcer la végétalisation. L'augmentation de l'offre ludique du parc du Guirlenirsch, donc ça, le pump track pourra être bientôt réalisé, puisque la consultation des entreprises a été a été faite et donc c'est en cours d'attribution. Et toujours le remplacement des aires de jeu, hein. Il y a eu un gros programme pendant tout le mandat, autour de 100 000 euros chaque année, hein, parce qu'il y a certes toutes les nouvelles aires de jeu qui sont mises en place à des endroits, mais il y a aussi l'entretien et le remplacement des modules. Et vous savez que c'est des modules qui sont souvent très chers. Et donc, quand on travaille sur un banc communal avec autant d'aires de jeu, c'est nécessaire d'avoir un suivi rigoureux, notamment en matière de normes, hein, pour que les enfants restent dans des conditions de sécurité optimales. Ça fait le lien avec les écoles, avec les travaux d'équipement, hein, notamment en matière de numérique, puisqu'on a quasiment 200 000 euros qui sont prévus sur le déploiement d'un certain nombre d'outils numériques, hein, le remplacement des classes mobiles, le remplacement des derniers tableaux blancs numériques qui n'avaient pas été remplacés, hein, et qui passent à des technologies maintenant laser qui sont plus fiables que les premières technologies, plus tous les travaux qui sont prévus, que ce soit d'ailleurs dans les écoles ou dans les crèches, hein, puisque dans les crèches, il y a encore un gros plan d'investissement qui est prévu cette année, hein, notamment crèche de Lille et crèche des Vignes, puisqu'il y a une poursuite des travaux de sécurisation des espaces, d'aménagement des espaces et de finalisation, notamment de la végétalisation, hein, des deux cours de ces structures. On parlait de la ferme urbaine qui avance bien, hein, puisque on a eu ces premières récoltes avec les lentilles. On a les fraises qui sont plantées, hein, que vous pouvez voir, et qui poussent dans un enclos juste à l'arrière de la rue de la Plage. Et la convention qui a été signée avec l'EPAM, hein, qui nous met à disposition, alors de façon un peu, c'est un peu original, puisque c'est des terrains qui appartiennent initialement à la ville d'Ilkirch, qui avaient été donnés par un bail emphytéotique à l'EPAM. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec l'EPAM pour remodifier justement ce bail emphytéotique pour que cette partie en fait revienne entièrement à la ville. Et donc on a là-bas plusieurs serres qui vont être exploitées par deux agriculteurs qui exploitent déjà les terres du Baguerzé, hein, sur un certain nombre de cultures. Alors on est sur de la culture très diversifiée, hein, que ce soit de la tomate, du concombre, de la courgette. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste. Il y aura même des asperges pour les amateurs d'asperges. En tout cas, voilà, il y aura ce qu'il faut pour avoir une production locale. Et il y aura même une serre pédagogique, hein, puisque dans le choix qui a été fait, c'est qu'une serre soit entièrement dédiée à la ville pour pouvoir accueillir les écoles et des structures associatives pour faire de la pédagogie autour de l'alimentation, hein, de comment ça se passe, l'agriculture, l'alimentation durable et autres. Donc on aura vraiment cet espace-là avec un espace en dur qui sera fait à côté, hein, pour faire un espace de vente et un espace pédagogique et du stockage pour le matériel. Et donc voilà, on arrive sur un aboutissement de ce long processus avec les agriculteurs pour pouvoir finalement garder les agriculteurs qui étaient déjà sur le site du Baguerzé et les convaincre de faire d'autres cultures que des cultures céréalières dédiées parfois plutôt au fourrage pour les animaux que en termes d'alimentation pour les habitants. Donc ça c'est très très intéressant. Et sur tous les bâtiments communaux, on a pas mal de choses qui sont aussi prévues, hein, puisqu'on a la consultation qui est en cours sur la maison de l'enfance, de la jeunesse et des associations, hein, puisque le terrain avait été acquis, qui est un espace provisoire qui a été fait avec notamment des arbres qui vont pouvoir être plantés dans d'autres endroits quand les voiries vont être réalisées. On a aussi la rénovation énergétique des bâtiments, hein, notamment dans le cadre du CPE, du contrat de performance énergétique, avec un sujet important, c'est celui du micro-réseau de chaleur, comme ça a été fait au centre-ville, au niveau du Lixembul, hein, avec une volonté d'isoler mieux le complexe du Lixembul et notamment la salle verte, hein, qui n'est pas toujours finalement chauffée, parce que vous avez une grande partie vitrée à l'ancienne qui fait que vous avez l'air froid qui pénètre, et donc dans ces périodes, ce n'est pas toujours simple d'aller voir un match de handball notamment. Et donc il y a cette isolation. Et donc ce micro-réseau de chaleur, en fait, il doit se constituer un peu comme ce qui a été fait au centre-ville, hein, d'une pompe à chaleur pour alimenter l'ensemble du complexe et pouvoir être complété par une offre de panneaux solaires, hein, avec des ombrières photovoltaïques sur le parking du Lixembul, puisque là, il y a un vrai intérêt de mettre de l'ombrière photovoltaïque. La sécurisation de l'infrastructure informatique, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important. On y a veillé pendant tout le mandat, parce que c'est peut-être des choses qui se voient parfois moins, mais ça permet d'éviter des problématiques. Je vous rappelle que d'autres communes juste à côté se sont retrouvées à ne plus avoir aucun document administratif et ont eu du mal parfois à préparer des budgets parce qu'ils avaient été rançonnés et ils n'accédaient plus à leurs données. Donc ça devient quand même un sujet extrêmement important. Il y en a pour 200 000 euros encore cette année. Et puis le remplacement des véhicules, hein, puisque même si ça aussi, ça se voit pas, on a aussi nécessité aujourd'hui de pouvoir remplacer les... On est plutôt en plus sur des gros véhicules, hein, type camion pour la régie municipale. Donc voilà, en tout cas, il y a une vraie volonté de continuer à faire en sorte de pouvoir soutenir un service public de qualité tout en investissement correctement et en gardant des ratios qui soient les meilleurs possibles, parce que ces ratios-là, en fait, font qu'il y ait une solvabilité renforcée de la ville qui lui permet, en fait, de regarder sereinement l'avenir dans un contexte quand même qui est de plus en plus contraint pour les collectivités territoriales, puisque même si les villes se sont retrouvées moins, finalement, touchées par les mesures d'économie, elles se retrouvent quand même touchées, puisque, par exemple, d'Illico, hein, le dispositif de lissage conjoncturel qui nous concernait l'année dernière pour quasiment 100 000 euros, cette année ne concerne pas les communes, mais voilà, on sait qu'il y a aujourd'hui des choses qui viennent parfois perturber la gestion quotidienne, et notamment la section de fonctionnement qui permet de maintenir un haut niveau de service public, puisqu'il y a bien une différence entre la partie fonctionnement et la partie investissement, et qu'aujourd'hui, quand on regarde, hein, les dépenses contraintes par des décisions qui sont prises dans d'autres instances impactent fortement aujourd'hui les dépenses de fonctionnement, quand les recettes de fonctionnement aujourd'hui sont plutôt stables, voire parfois pas loin de la baisse, hein, quand on regarde, puisque finalement les participations des autres organismes ou autres sont aujourd'hui parfois en diminution dans le cadre budgétaire qu'on connaît. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un budget qui permet de voir l'avenir sereinement et de se porter bien par rapport à d'autres communes aujourd'hui qui parfois ont dû arrêter un certain nombre d'investissements complètement. Et donc ça, je pense qu'on peut se féliciter de ne pas avoir dû complètement arrêter les investissements pour ce mandat-là, parce que le contexte était quand même assez mouvant et les crises étaient quand même assez successives. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Madame Magdelaine et Madame Gendreau. Madame Magdelaine, je vous en prie.
Merci, Monsieur le maire. Le débat d'orientation budgétaire n'est pas un exercice de communication. C'est un moment de vérité collective. Il engage non seulement l'année à venir, mais les marges de manœuvre du mandat suivant. Or, à la lecture attentive du débat d'orientation du rapport du DOB 2026, un constat s'impose. La situation financière apparaît saine aujourd'hui, mais elle est fragilisée pour demain. Oui, la ville affiche une dette exceptionnellement faible, une capacité de désendettement très favorable et un niveau d'investissement élevé, sans recours à l'emprunt en 2026. Mais ces résultats reposent principalement sur la mobilisation d'un stock d'excédents accumulés et non sur une dynamique structurelle équilibrée du fonctionnement. Autrement dit, nous finançons aujourd'hui l'avenir avec l'épargne d'hier, sans garantie que cette épargne se reconstitue demain. Aujourd'hui, les finances vont bien parce qu'on utilise les économies du passé, mais ces réserves ne sont pas infinies. Le document le dit explicitement, une diminution structurelle des niveaux d'épargne est désormais avérée. Et les chiffres sont clairs. Les dépenses de fonctionnement progressent plus vite que les recettes. Plus 6,3% contre 1,1% pour les recettes, donc 6 fois plus. L'épargne de gestion recule fortement. Elle passe de 6 millions d'euros en 2023 à 4 en 2025. Moins 24% en un an. La capacité d'autofinancement baisse également année après année, de 5,2 millions en 2020 à 3 millions en 2026. Le document reconnaît explicitement que la baisse de l'épargne est désormais structurelle. Et ce n'est pas conjoncturel, comme vous tendez parfois à nous le dire. C'est structurel. Et ce phénomène n'est pas corrigé puisqu'il est prolongé dans les projections 2026. En clair, les dépenses augmentent plus vite que les recettes et cela réduit chaque année l'argent disponible pour investir sans s'endetter. Les choix de gestion qui ont été faits rigidifient durablement l'avenir. Une masse salariale en hausse continue, largement contrainte et peu réversible. Plus de 3,3 millions d'augmentation entre 2020 et 2025, qui se prolonge en 2026 pour dépasser 4 millions d'euros. Une explosion des prestations de services qui ont doublé entre 2020 et 2025, plus 1,2 million d'euros. Une montée en charge non anticipée de certains services. Un maintien des tarifs et de la fiscalité sans ressources compensatoires. Ces choix ont une conséquence claire, Il crée un effet de ciseau permanent entre coûts et recettes qui réduit durablement les marges d'adaptation de la collectivité. Les décisions prises ces dernières années sont difficiles à corriger. Elles rendent le budget plus rigide et laissent moins de liberté pour l'avenir. En 2026, plus de 10 millions d'investissements sont programmés, sans recours à l'emprunt, grâce à la mobilisation de l'excédent 2025. Autrement dit, l'investissement 2026 est financé sans emprunt au prix d'une forte consommation des réserves. Aucune trajectoire claire de reconstitution de l'épargne n'est présentée. Seule la capacité d'endettement est préservée uniquement pour 2026. Ce choix réduit mécaniquement les marges futures. Cela signifie très concrètement que les arbitrages difficiles sont repoussés et devront être faits sur le prochain mandat. Sur l'investissement futur, les services rendus, la fiscalité ou l'endettement. En 2026, il nous est proposé d'investir beaucoup sans emprunter, mais en puisant dans les réserves. Et cela reporte les choix difficiles sur le prochain mandat. Ce sont les prochains élus et donc les habitants qui devront en assumer les conséquences. La trajectoire qui est présentée ici avec une épargne très affaiblie rend la collectivité plus sensible aux facteurs extérieurs, aux baisses de dotation, aux incertitudes sur les compensations fiscales, à la hausse des cotisations retraite, vous en avez parlé, et à la fragilisation des cofinancements des partenaires institutionnels. Chaque aléa pèsera désormais plus lourdement sur notre collectivité. Et c'est précisément dans ces moments-là que la solidité structurelle du fonctionnement devient déterminante. La vraie question, au fond, de ce débat d'orientation budgétaire n'est pas « la situation est-elle saine aujourd'hui ?» mais « est-ce que la ville pourra continuer à agir demain sans augmenter les impôts ou réduire les services dont nos habitants ont tant besoin ?» C'est ça, la vérité. En conclusion, ce rapport d'orientation budgétaire montre que le futur est déjà obéré, non pas par une crise brutale, mais par l'accumulation des choix faits ces dernières années, qui rigidifient le fonctionnement et réduisent les marges de manœuvre. En 2020, vous avez hérité d'une ville solide, avec une situation financière saine, flexible et capable d'absorber les imprévus, avec une épargne élevée, un taux de capacité d'autofinancement à 18%, aujourd'hui à 10%, des investissements maîtrisés, des marges de manœuvre reconstituées et un endettement raisonnable à l'époque de 414 euros par habitant, bien en deçà des moyennes nationales. En 2026, vous allez laisser une situation financière fortement contrainte, avec une épargne de gestion et une capacité d'autofinancement en forte baisse, des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes, à l'instar des prestations de services qui ont été doublées et des dépenses de personnel qui ont augmenté de plus de 4 millions d'euros. Une masse salariale qui représente aujourd'hui 58% du budget de fonctionnement, des investissements élevés financés par les réserves. Nous devons faire preuve de lucidité et de sincérité. Le mandat 2020-2025 a consommé une part importante des marges de manœuvre héritées du passé. Attention aux fausses promesses. Le futur est fortement contraint et exigera des décisions difficiles. Nous devrons agir en responsabilité, mieux piloter, mieux organiser, mieux prioriser. Concrètement, cela veut dire se fixer une feuille de route claire pour garder des économies suffisantes chaque année, mieux maîtriser les dépenses de personnel en améliorant l'organisation plutôt qu'en supprimant des services, investir là où c'est vraiment utile, sans mettre en difficulté les finances de la ville, aller chercher un maximum d'aides et de subventions pour ne pas tout financer seul. Enfin, utiliser l'emprunt avec mesure quand c'est nécessaire afin de préserver des économies de la collectivité. Notre équipe n'aura qu'un seul objectif, continuer à investir et à rendre des services sans fragiliser l'avenir ni faire porter l'effort sur les habitants de demain.
Merci Madame Magdeleine. Madame Gendreau, je vous en prie.
Vous m'entendez ? Ça marche ? Oui. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, le rapport présenté aujourd'hui, par sa similitude avec les précédents, manque cruellement de clarté pour l'avenir d'Ilkirch-Grafenstaden. Au niveau des investissements, censés préparer l'avenir de la ville, le budget est annoncé comme une nouvelle année de réalisation et d'accélération des grands projets. Franchement, il est difficile d'y trouver une vision claire sur les objectifs du futur budget 2026 pour Ilkirch-Grafenstaden. En effet, quand on regarde le programme pluriannuel d'investissement, on y trouve toujours les mêmes opérations année après année. Certaines sont engagées, mais pas terminées, comme le hall des sports. D'ailleurs, ce dossier amène plusieurs remarques. Tout d'abord, ce projet était initialement annoncé et voté en 2021 à 12 millions d'euros, avec des subventions à hauteur de 5 millions d'euros. Maintenant, le coût annoncé est de 16 millions d'euros, avec des subventions à hauteur de 1 691 000 euros. À noter qu'à ce jour, vous n'avez touché que 80 000 euros de subventions et que vous reportez le reste en 2026. Nous attendons de les voir arriver. Ce n'est plus vraiment le dossier que nous avons voté. Les contribuables vont donc payer 14,5 millions d'euros un bâtiment qu'ils devaient au départ payer 7 millions. L'addition aura donc doublé. Enfin, vous annoncez partout que le hall des sports sera livré fin 2026, mais vous annoncez plus de 3 millions d'euros sur les années 2027 et suivantes. Le bâtiment sera-t-il vraiment fini en 2026 ? Le dossier de la rénovation et de l'extension de la FAIG tourne, lui, au sketch. Depuis 6 ans, vous nous annoncez être en contact avec le propriétaire du terrain qui jouxte la FAIG. À ce jour, nous ne voyons aucun montant pour prévoir l'acquisition du terrain et surtout aucun point à l'ordre du jour du conseil municipal pour nous expliquer comment et quand vous pourrez acquérir ce terrain. Ni lettre d'engagement, ni compromis de vente n'ont été présentés malgré nos différentes demandes. Aujourd'hui, vous inscrivez 1 million d'euros pour faire 2 demi-terrains supplémentaires dont la FAIG a besoin. Soit, mais qu'en est-il du terrain supplémentaire qui doit remplacer celui de la Chausse-Mat et qui doit donc permettre un parc à la Chausse-Mat ? Pour l'instant, il n'y a toujours aucune information concrète à ce sujet. C'est encore un report au futur. Visiblement, dans la plus pure tradition de votre parti politique, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Ce dossier entraîne d'ailleurs des répercussions concrètes sur celui de la Chausse-Mat, car pas d'achat de terrain pour le projet FAIG, pas de déménagement du foot de la Chausse-Mat, que vous annoncez pourtant à la moindre occasion pour 2026. Je viens de comprendre à l'instant, dans votre description, que en 2026, le seul sujet qui sera traité, éventuellement, ce seront les voiries. Donc, le parc de la Chausse-Mat est encore repoussé, on ne sait pas à quand. En tout cas, pas tant que vous n'aurez pas enfin trouvé la solution pour la FAIG. Pas plus que le marché couvert, promis en 2020, cours de l'Iliade, qui maintenant est renvoyé également à 2027. Dans le bâtiment 1922 et non plus cours de l'Iliade, alors que la simple rénovation de ce bâtiment devrait coûter plusieurs millions d'euros, j'ai d'ailleurs une question tout à fait simple. Chaque établissement recevant du public doit avoir une façade accessible aux pompiers. Quelle est la façade aujourd'hui accessible aux pompiers sur le bâtiment 1922 ? Comment les camions de chantier arriveront ? Comment les camions de pompiers arriveront, étant donné la qualité et la structure du pont nord existant qui ne peut pas supporter des poids lourds ? C'est une question que je vous pose, j'aimerais bien avoir la réponse. Donc, à ce stade, on se demande pourquoi vous avez organisé ces dernières semaines plusieurs réunions publiques sur la Chausse-Mat, le projet de rénovation urbaine de Liebermann. Vous nous annoncez aujourd'hui que concernant la maison des associations, votée quand même il y a plus de 3 ans par ce conseil municipal, vous avez commencé des consultations. Nous avons donc la réponse. Vous avez utilisé ces réunions pour recycler vos promesses de 2020 et présenter votre programme électoral de 2026. Notons enfin une opération annoncée et non chiffrée, comme la transformation du tennis club Ilkirch-Grafenstaden, qui semble le fruit de vos passages dans les AG des associations récentes, au cours desquelles la machine à promesses semble sans contrôle. Enfin, je souhaite souligner que l'avalanche de chiffres pour 2027 et les années suivantes me semble poser un problème de sincérité budgétaire. On a l'impression que tout d'un coup, les millions d'euros pleuvent ou que vous vous prenez pour Gérard Majax de la finance. Malheureusement, ce qui apparaît clairement dans les prévisions, c'est la baisse de la capacité d'épargne de la ville. Vous nous annoncez que son taux en 2026 ne devra pas descendre en dessous des 8%, contre 13% fin 2025 et 17% en 2024. Cette érosion de la CAF s'inscrit durablement et de manière structurelle dans les comptes de la ville, et rien dans ce rapport 2026 ne vient enrayer cette tendance. Cette tendance s'avère d'autant plus inquiétante que la pression fiscale en 2026 va, elle, encore augmenter de 160 000 euros, qui s'ajoute aux 2 300 000 euros depuis 2020. Nous pouvons être inquiets concernant le financement des investissements inscrits au plan pluriannuel que vous faites reposer exclusivement sur la capacité d'épargne en vertu de votre dogme de ne pas recourir à l'emprunt. Cette stratégie de financement atteint ses limites dès 2026 et l'épargne constituée sur les exercices précédents ne suffira pas à absorber durablement les besoins de financement des investissements et peut-être, plus grave encore, le fonctionnement courant des services municipaux. Quel que soit l'exécutif issu des élections, le débat devra avoir lieu devant les Île-Kirchois. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Beaujeu a demandé la parole, et puis Monsieur Frolli ensuite.
Merci. J'ai bien aimé la présentation, en tout cas le début de Madame Séverine Magdelaine, notamment sur la fragilité structurelle. Je pense que c'est la bonne terminologie. Alors, je n'ai pas tout compris, moi, là, dans le budget, mais j'ai quand même compris que de 2020 à 2026, on est passé de 247 ETP à 293, sans compter les heures supplémentaires. Et donc, il y a quand même plus de 50 emplois supplémentaires qui vont peser à très long terme sur les comptes de notre ville. Était-il absolument nécessaire? On peut largement se poser la question. Et en tout cas, moi, j'avais des questions précises, justement, sur ces heures supplémentaires. On était à 10 000 et quelques en 2024, on est encore à 9 150 en 2025, pour quelles raisons, sans qu'il y ait eu d'élection particulière. Donc, et ces heures supplémentaires représentent 5,7 ETP supplémentaires aux 55-60 postes dont on a parlé, donc à 1 605 heures par an par emploi, par ETP. Donc ça fait quand même beaucoup de création de postes. Deuxième question, par rapport, on évoque de la sincérité ou l'insincérité. Dans le tableau des effectifs, vous avez le chiffre global, mais il semblerait que cette année ait disparu la répartition numérique des postes par fonction, par direction, et qu'apparaissent désormais un pourcentage, ce qui ne facilite pas la lecture pour analyser la répartition des augmentations d'effectifs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était une façon de noyer le poisson? Je veux dire, ça, c'est quand même un élément qui est perturbateur pour l'analyse de la répartition des effectifs. Je vous remercie.
Oui, Monsieur Frolli.
Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je n'ai pas le sentiment d'assister ce soir à un débat d'orientation budgétaire, mais à un débat sur des décisions qui sont déjà arrêtées. C'est un constat renouvelé. Nous n'avons jusqu'à ce jour, au cours de ce mandat, jamais pu débattre collectivement sur un document présenté dans les temps, c'est-à-dire à la fin de l'année précédente, le vote du budget. Les débats sont toujours organisés un, voire deux, voire trois mois après que l'année budgétaire soit entamée. Je voudrais, si vous le permettez, une dernière fois pour ce mandat, dire à notre collègue, l'adjoint aux finances, que ce n'est pas pour des raisons pour recoller à la situation économique qu'on fait ce débat maintenant. Ça, c'est d'un autre temps, parce qu'à l'époque, on pouvait voter le budget jusqu'au 1er avril parce que les services fiscaux n'étaient pas en capacité de livrer les résultats de la taxe professionnelle parce que ce n'était pas informatisé. Donc, on a laissé du temps aux collectivités pour voter leur budget jusqu'en avril et aussi un peu pour aider les petites communes qui n'avaient pas le personnel nécessaire. Donc vous vous abritez derrière cette excuse pour ne pas organiser en novembre, en décembre, un véritable débat qui nous permettrait tous ensemble de donner notre point de vue et de faire un véritable budget d'orientation budgétaire et peut-être d'apporter quelque chose les uns aux autres. C'est un grand regret, mais je pense que je n'arriverai jamais à vous convaincre et que vous restez campés sur vos certitudes. Alors, pour accentuer cette absence de débat et d'information, c'est le refus ou votre incapacité de répondre aux questions écrites tout au long de l'année par certains de nos collègues concernant le coût de certaines manifestations ou de certains projets. Je regrette beaucoup cette ignorance des questions posées et cette absence de réponses. Je ne vois pas ce que vous avez à cacher. Je ne vois pas pourquoi vous refusez de nous répondre et de donner des éclaircissements. Donc, pas de débat, pas d'échange, encore moins une stratégie financière, et je crois que ça a été dit par l'ensemble des intervenants. Et comme vous l'indiquez dans votre document, il n'y a pas de stratégie financière, contrairement à ce que vous indiquez. En réalité, vous restez assis pour l'instant sur le matelas financier laissé par les équipes précédentes. Ça a été expliqué d'autres manières, avec pour seule initiative le remboursement des prêts, non pas pour des raisons financières, mais parce que vous n'aviez, fin 2013, M. Scheuer, aucune réalisation, aucun achèvement de travaux à financer. Donc vous avez rendu cet argent aux banques et vous en aurez besoin dans 2-3 ans et là vous serez obligé de faire à nouveau des emprunts. Mais c'est une façon d'embellir la situation financière de ce mandat, mais c'est quelque chose d'artificiel. Pour masquer cet aspect de stratégie financière, vous vous targuez de 50 millions d'euros d'investissement. En fait, moi, j'ai beau revoir l'ensemble des projets et des chantiers, je n'arrive pas aux 50 millions. Je crois que tout simplement, vous additionnez les programmations avec les réalisations. Parce que ce qui me semble important, c'est d'additionner ce qui a été terminé, ce qui a été réalisé. Or, je pense que vous additionnez les programmes aux travaux terminés. Donc, 50 millions, j'aimerais bien qu'on m'explique comment vous y arrivez. Plus de 50 millions. Le fonctionnement, c'est pas plus compliqué. Tout est en forte augmentation et je trouve le terme de sobriété dont vous vous prévalez peu approprié aux augmentations d'effectifs importantes. D'ailleurs, je vous pose la question, entre parenthèses, est-ce que les charges de personnel et les charges de fonctionnement du Lixenbühl, du nouveau hall des sports, ont été intégrées dans votre pré-budget 2026? Est-ce que cette incidence a déjà été incluse? Sinon, je crois qu'on aura de belles surprises aussi dans les années à venir, parce que ce bâtiment, cet équipement va coûter extrêmement cher. Donc c'est une question que je vous pose. De manière plus générale, et pour clôturer cette première partie de mon intervention, je regrette quand même, monsieur le maire, et j'espère qu'il en sera différemment au cours du mandat suivant, je déplore ce climat tendu qui a marqué nos échanges ou cette absence d'échange au cours de ce mandat. Jamais en 30 ans de vie municipale, je n'ai vécu un mandat aussi crispant et aussi heurté. Et je crois que vous en êtes grandement responsable, mais peut-être que c'est un péché de jeunesse et que le temps venant, si c'est vous qui présidez au destiné, mais ça, c'est les résultats de mars qui le décideront. Donc je regrette beaucoup ce climat tendu et cette absence de coordination que nous avons subie pendant 6 ans. Un détail anecdotique, mais qui illustrera ce propos. Vous avez supprimé les petites collations d'après conseil municipal pour des raisons économiques. Je crois que c'était une façon aussi de se rencontrer après un débat, d'échanger, de partager des contradictions et de mieux se connaître. Vous avez tout fait au cours de ce mandat aussi pour que ces contacts n'existent pas, alors que vous avez été beaucoup plus généreux pour certaines collations au cours de votre mandat. Le débat d'orientation budgétaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est définir des enjeux d'avenir et les éléments à inscrire dans le budget annuel et pluriannuel qui en découle. Tel n'est pas le cas sur le débat, mais pour vous dire, définir des projets, c'est voir au loin, voir ce qui peut se passer dans les 20 ans à venir. Et puis, je crois que là aussi, je le mets sur le compte de votre jeunesse, votre inexpérience, ne pas mettre la charrue avant les bœufs ou lancer des idées en l'air comme l'acquisition du bureau de police municipale qui nous laisse aujourd'hui un immeuble sur les bras. C'est aussi la réorganisation urgente, chaotique de la circulation aux abords de la Schlossmatt, alors que tout à l'heure vous avez bien parlé de ce projet qui avait déjà été initié dans le cadre de la réflexion avec l'architecte urbaniste paysagiste Alfred Peter. Je crois qu'il eût été plus sage, plus intelligent, si vous le permettez cette expression, de d'abord réfléchir, de d'abord concerter. Vous avez concerté, mais vous avez décidé de changer les centres de circulation. C'est devenu quelque chose d'assez insupportable pour les gens qui ont connu la circulation à Ilkirch précédemment. Donc, voir l'avenir, c'est aussi des perspectives réfléchies avec, je l'ai dit, un climat politique plus apaisé, avec une gouvernance équilibrée, structurée, et ne pas donner l'impression qu'Ilkirch est au bord d'une guerre civile. Parce que, en doublant, en triplant les effectifs de police, parce que vous l'avez annoncé, le triplement des effectifs, vous donnez l'impression que Ilkirch, c'est Dallas. Hein. Qu'est-ce qui vous donne cette envie de recruter à tout va pour notre police municipale, qui, je crois, au cours des mandats précédents, et celui-ci a toujours fait son travail correctement. Qu'est-ce qui vous prend à vouloir encore augmenter les charges de personnel et reporter les missions de l'État sur les finances communales? J'aimerais bien que vous m'expliquiez, vous devez avoir votre vision, peut-être une ambition nationale, peut-être une ambition politique plus ample, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi vous voulez vous donner aussi indirectement cette image de notre ville. On m'en parle assez souvent. Alors, si j'avais un vœu à émettre, si nous étions ce soir dans un vrai débat, je dirais que la priorité pour ces années à venir, et il me semble qu'elle est assez urgente, c'est un soutien renforcé aux familles, celles qui se battent au quotidien pour élever leurs enfants, aller au travail, entretenir un logement, s'occuper aussi, quelquefois encore, de leurs parents âgés. Ces familles méritent plus de soutien, plus d'aide, que ce soit à travers la restauration scolaire, encore plus, les structures périscolaires, la réorganisation de l'accompagnement du soutien à l'éducation nationale dans le projet éducatif, des aides au logement, et puis je pense aussi, vous l'avez un peu oublié, un accompagnement culturel dès la plus jeune enfance. Ce défi de la parentalité, il me semble que c'est le défi important à relever pour l'immédiat, et ça va être une œuvre de longue durée. Je crois que le contexte, pas uniquement économique, mais aussi sociétal, nécessite, je pense, qu'on se préoccupe des parents, de la parentalité et tout ce qui... la préservation de la famille, je crois que vous y tenez beaucoup aussi. Je crois que c'est extrêmement important de veiller à ça, et je pense que ce serait bien que le débat ait lieu à ce niveau-là. Et puis, enfin... la remise en route d'une véritable politique du logement. Vous avez, pour des raisons que tout le monde a compris, dit que vous n'alliez plus autoriser de construction, peut-être vous vouliez dire collective, hein, dans notre ville. Je crois que c'est une grave erreur. C'était, je pense, purement un slogan de campagne municipale. Donc je crois qu'il est important qu'une véritable politique du logement pour les jeunes, pour... tout ce qui a envie de rester, d'habiter à Ilkirch, soit remis en route. Voilà, à mon avis, deux sujets importants qui auraient mérité en amont un véritable débat, un échange, et peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enrichissement des uns et des autres, et tenant compte peut-être de l'expérience des uns et des autres, et de la jeunesse des autres. Voilà, je crois que tout cela mélangé aurait fait un beau débat et peut-être encore de plus. Je lui souhaite un bel avenir et j'espère que la prochaine équipe municipale l'écrira et permettra à Ilkirch de rester cette ville attractive, innovante qu'elle a été au cours des années et qu'elle le restera pour longtemps. Je vous remercie.
Merci Monsieur Froli. Mais enfin, la petite collation n'existe plus, mais si vous m'aviez invité ou je vous aurais invité au restaurant, on aurait pu aller passer un petit moment ensemble. Hein. Moi, j'ai jamais été contre, hein. Mais pas aux frais du contribuable, c'est tout. Mais c'est pour ça. Donc, si c'était juste votre gré, si vous souhaitez, on peut aller déjeuner ensemble ou dîner ensemble un soir. Moi, je le fais avec grand plaisir. Si vous voulez partager votre expérience, je la prends avec grand plaisir. Monsieur Scheuer veut répondre.
Oui, merci, monsieur le maire. Alors, tout d'abord, monsieur Froli, concernant la date du débat d'orientation budgétaire, hein, c'est devenu un marronnier. Chaque année, on y a droit. Je fais un peu appel au bon sens que tout élu devrait avoir. Je ne fais qu'appliquer les textes et vous savez que, je l'ai rappelé dans mon propos introductif, la loi de finances 2026 a été votée la semaine dernière. Donc on ne savait pas la semaine dernière à quelle sauce les collectivités locales allaient être mangées. On parlait 4 milliards d'économies. Finalement, grâce à l'association des maires qui ont œuvré pour baisser, on est arrivé à 2 milliards. Voilà, donc ça, ce qui explique notamment qu'on soit au plus près de la sincérité, je dirais, budgétaire. Concernant les échanges, Monsieur Froli, les échanges, nous pourrions les avoir sur le terrain. Encore faut-il y être sur le terrain. Voilà. Et concernant les collations, vous le savez que notre équipe, on ne souhaitait plus aller manger aux frais du contribuable. Et donc, et je serais aussi ravi de pouvoir échanger avec vous au cours d'un repas. Je termine, si vous permettez. Plus globalement, vous restez les uns les autres campés, ancrés dans des certitudes passées. Alors oui, nous avons des pratiques de gestion différentes et je le revendique et j'en suis fier. Je rappelle, et vous parlez d'excédent. Oui, vous aviez un excédent qui a été financé par des emprunts et qui ont coûté très cher aux contribuables. C'est la raison pour laquelle nous avons remboursé par anticipation des emprunts qui ne servaient pas, puisque nous avons utilisé l'argent qui était effectivement dans les caisses pour réaliser tous les investissements que nous avons souhaité faire. Je rappelle qu'une collectivité, que la commune, n'a pas vocation à thésauriser. Donc, encore une fois, c'était une bonne stratégie financière, claire, transparente. On l'a dit dès le départ. On a tenu notre engagement du début jusqu'à la fin. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de communication dès lors que les ratios et les indicateurs sont parfaitement factuels et ils ne trompent pas. Je crois que beaucoup de communes enviraient notre situation financière. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants dans un contexte, vous le savez, très contraint pour les années futures. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour continuer à gérer dans, on va dire, en bon père de famille. Et enfin, pour terminer, voilà, Madame Magdeleine, je serais tellement heureux de pouvoir partager votre opinion, mais nous serions deux à avoir tort. Merci, Monsieur le maire.
Merci, effectivement. Alors, je vais peut-être compléter un certain nombre d'éléments. C'est vrai qu'on n'est pas dans une... On n'est aujourd'hui pas dans quelque chose de complètement structurel. Structurellement, effectivement, ça le devient, mais ça le devient par rapport à des éléments conjoncturels, puisque jusqu'à présent, la baisse des dotations aux collectivités, l'augmentation d'un certain nombre de prestations qui sont demandées par l'État aux collectivités, notamment on parle de la caisse de retraite, puisque pendant longtemps ça a été une caisse de retraite qui servait à financer tout et n'importe quoi, excusez-moi de le dire comme ça, mais sauf réellement les retraites. Mais en fait, comme il y avait de l'argent, on allait puiser dans cette caisse de retraite, et finalement aujourd'hui on se retrouve avec une caisse de retraite qui, comme d'autres, sont pas forcément équilibrées. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'éléments qui sont venus perturber la conduite de ce mandat, hein. La crise de l'énergie, parce que je rappelle quand même que pendant un certain temps, on a eu quasiment 1 million d'euros de plus sur les dépenses contraintes, notamment en matière d'énergie. Quand on regarde aujourd'hui entre les investissements qui ont été faits d'isolation des bâtiments, de réseaux de chaleur, de remplacement de l'entièreté de l'éclairage public, on arrive quasiment à des dépenses équivalentes en matière d'énergie qu'au début du mandat, ce qui est quand même une prouesse dans un contexte où on sait que le gaz et l'électricité n'ont pas baissé autant qu'ils ont augmenté pendant toutes ces années de crise. Et d'ailleurs, quand on est soi-même chez soi à payer sa facture, on voit bien que ça n'a pas été renouvelé dans des niveaux, même si c'est un petit peu baissé par rapport au pic de la crise. Et donc, effectivement, il y a eu un choix assumé en matière de services publics. D'ailleurs, c'est quand même quelque chose que je perçois quand je lis les différents documents. Je perçois qu'il y a une volonté de renforcement du service public. Mais en fait, on ne peut pas nous reprocher d'avoir augmenté les frais de personnel, alors que ces frais de personnel sont essentiellement concentrés, notamment sur les services aux familles, puisque l'essentiel aujourd'hui des services qui ont été renforcés et qui coûtent de l'argent, et d'ailleurs on a dû voter une décision budgétaire modificative au conseil municipal précédent, c'est pour renforcer le service aux familles, notamment la partie périscolaire, entre la pause du midi avec la restauration scolaire, avec l'accueil notamment du soir, le service aussi sur les mercredis et sur les vacances scolaires, hein, où il y a des places supplémentaires qui ont été mises à disposition des familles, eh bien, c'est essentiellement ce poste-là aujourd'hui qui a été fortement augmenté et qui impacte les frais de personnel et qui impacte les frais de personnel pour les années à venir. Donc, à un moment, moi, je veux bien que tout le monde soit là avec des promesses, c'est-à-dire on va renforcer le service aux familles, mais on a déjà renforcé le service aux familles. Il faut continuer à renforcer le service aux familles parce que, justement, de manière structurelle aujourd'hui, par rapport à un événement conjoncturel, c'est-à-dire que les gens qui demandent de plus en plus les modes collectifs par rapport aux modes individuels, fait que de toute façon, d'année en année, on a une augmentation. Quand vous voyez ce qui a été mis dans le document, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une partie par rapport à l'année dernière, vous disiez le document est strictement le même que l'année dernière, il y a toute la partie sur les services, sur les temps périéducatifs qui n'étaient pas mis en avant et qui a été mis en avant justement parce que ça devient un sujet central en termes de services publics aux habitants et particulièrement aux familles, et que quand on voit qu'on a une hausse entre 46 et 47% sur les deux dernières années, on se rend bien compte que globalement, pour pouvoir faire face à cette hausse, en fait, il y a deux choix. Soit il y a le choix de certaines communes, et j'en connais certaines, de dire bah, on limite et on met des quotas pour l'accès à la restauration scolaire, au périscolaire, au centre de loisirs, soit on fait le choix de renforcer le service et d'accueillir tout le monde. Nous, on a fait le choix d'accueillir tous les enfants et de continuer à augmenter les places. Et cette année, dans les orientations, il y a continué à augmenter les places, notamment les places du mercredi et des vacances scolaires, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'offre qui était historiquement proposée au Mulégel était insuffisante, que le centre de loisirs de 56 places à l'école du centre a permis d'apporter un certain nombre de réponses aux familles, mais que c'est insuffisant et que ça devient quand même quelque chose de structurel pour la collectivité. Et donc à un moment, si on dit demain, je veux réduire le personnel de la ville, puisque c'est ce que je comprends dans, finalement, en termes de gestion, c'est un peu ce que je comprends dans les interventions, il faut dire sur quoi on supprime du personnel de la ville et qu'on me dise sur quel poste aujourd'hui le personnel est non essentiel au service public qui est aujourd'hui donné aux habitants. Ça, c'est très simple, parce que, en fait, quand on regarde aujourd'hui le service public, il est essentiellement en grande partie pour le cadre de vie, avec la régie municipale, hein, qui permet d'intervenir sur le domaine public, qui permet d'intervenir dans les bâtiments publics, qui permet, par exemple, quand les écoles ont besoin d'intervention pour réaliser des aménagements, par exemple nos menuisiers, hein, qui sont fortement sollicités pour créer des placards, pour créer des aménagements adaptés ou autres. Enfin, voilà, ça, c'est typiquement aujourd'hui la régie municipale. Alors, il faut dire qu'on va supprimer alors la régie municipale. Ou alors, il faut dire qu'on va démunicipaliser le service des agents d'entretien alors qu'on a fait le choix de le remunicipaliser parce que les prestations fournies par les sociétés extérieures n'étaient pas satisfaisantes et qu'on avait aujourd'hui des agents d'entretien, justement, essentiellement féminins, qui étaient en temps non complet parce qu'on n'était pas en possibilité de leur donner des contrats complets puisqu'il n'y avait pas forcément suffisamment de volume de tâches à réaliser et qu'en reprenant aussi les bâtiments municipaux, ça permettait de le faire. D'ailleurs, on l'avait bien montré quand ça était dans la délibération à l'époque du conseil municipal, que la livraison du hall des sports était bien prise en compte dans les frais de personnel avec le personnel supplémentaire. Ça avait été inscrit et c'était une donnée qui était bien prise en compte et qui est prise en compte dans la construction de ce budget, en tout cas des orientations budgétaires. Donc voilà, il ne faut pas non plus dire que le personnel a fortement augmenté parce que le personnel en fait a augmenté par rapport aux besoins qui a été constaté essentiellement sur les temps dédiés à la prise en charge des enfants de la ville. D'ailleurs, dans le même temps, il y a aussi la délégation de services publics pour la SBR qui a été augmentée pour pouvoir faire face justement au fait qu'on souhaite accueillir correctement les enfants dans les différentes structures de petite enfance. Il y a eu du renfort, effectivement, sur quelques services à la population. Par exemple, je prends le service de l'état civil, où il y a eu une volonté de pouvoir avoir une amélioration du service aux populations, qui a permis d'avoir un service augmenté, et finalement des délais réduits à 2 semaines sur les papiers d'identité, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a encore quelques années. Je pense que ceux qui ont tenté à un moment de faire une carte d'identité ou des passeports peuvent témoigner que ce n'était pas forcément des délais aussi réduits. Et ça, ça a été un travail de pilotage assez fin qui a été fait. Il y a eu effectivement la police municipale qui a été doublée. On est passé de 6 agents à 12 agents, donc ça fait 6 agents nets en plus. Et puis il y a eu le choix pour les écoles maternelles de doter les écoles maternelles d'un ATSEM par classe. Et donc ça aussi, avant il y avait des ATSEM qu'on appelait des ATSEM volants. Donc c'est vrai que le concept en termes éducatifs d'avoir des ATSEM volants, j'ai du mal à voir comment on fait, puisqu'on voyait bien les ATSEM volantes qu'on rencontrait. Elles se partageaient entre plusieurs classes. La construction de la relation avec les enfants, l'enseignant, était quand même beaucoup plus compliquée. Donc voilà un petit peu les augmentations qui ont été faites. Moi, si vous dites que ces augmentations de personnel sont injustifiées et n'apportent pas de service en plus à la population, c'est votre choix. Mais il faut le dire clairement, parce qu'on ne peut pas venir dire ça a augmenté. Et d'un autre côté, ne pas vouloir poursuivre, sachant quand même que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un agent en trop dans la collectivité. Et que la réorganisation qui a été menée sous l'égide du directeur général des services, justement, elle a été faite dans le but de pouvoir réorganiser par rapport aux services indispensables au public, en optimisant un certain nombre de process et de méthodes, en réorganisant certains services pour éviter qu'il y ait des doublons ou des problématiques qui pourraient finalement faire multiples usages. Donc tout a été fait pour optimiser. Et les heures supplémentaires, en fait, elles sont parfaitement nécessaires, puisque quand on voit aujourd'hui les heures supplémentaires, on a des heures supplémentaires essentiellement sur les espaces verts, puisqu'il y a un certain nombre d'interventions qui sont notamment prévues sur des périodes où, malheureusement, en fait, on sait très bien que dans la période actuelle, il y a un peu moins d'interventions que dans la période printanière et estivale. Donc forcément, il y a des temps qui ne peuvent pas forcément toujours être lissés, puisque... À un moment, malheureusement, quand on arrive au printemps, on a l'herbe qui pousse, les arbres qui poussent, enfin, ça pousse de partout, il faut de l'intervention, et donc forcément, ça suscite des heures supplémentaires. Il y a la police municipale, puisqu'il y a un nouveau planning qui a été validé pour la police municipale au comité social territorial, et donc aujourd'hui, quand on regarde, si on additionnait l'ensemble des agents qui sont dans le service et qu'on allait au maximum des heures supplémentaires, on serait au-dessus du quota d'heures supplémentaires qui est aujourd'hui présenté dans le rapport. Et effectivement, la police municipale, elle génère des heures supplémentaires parce qu'il y a des heures supplémentaires par rapport au travail la nuit, il y a des heures supplémentaires par rapport au travail le dimanche et les jours fériés, et parce que c'est un choix d'avoir mis des amplitudes supplémentaires, et parce que quand il y a une interpellation qui est réalisée, le process aujourd'hui veut qu'on ramène la personne sur ordre de l'officier de police judiciaire à l'hôtel de police à Strasbourg et que, en moyenne, on peut espérer attendre 3 à 4 heures dans les moments où il n'y a pas trop de file d'attente. Et forcément, quand vous avez un planning qui vous dit que vous finissez à 1h du matin, qu'à minuit, vous interpellez quelqu'un, par exemple, qui est sans permis de conduire, vous êtes obligé de le ramener à l'hôtel de police nationale à Strasbourg. Et donc, à ce moment-là, vous avez tout le processus qui commence. Et donc, on libère des fois nos agents à 3-4 heures du matin. Donc, forcément, ça engendre des heures supplémentaires. Et comme l'agent, il n'est jamais seul, souvent, la nuit, c'est des équipages de 3. Ben, forcément, à 3, vous prenez quelques heures supplémentaires, vous multipliez par un certain nombre de week-ends et autres, et ça génère des heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'heures supplémentaires en fait superflues, puisqu'il y a un vrai pilotage des heures supplémentaires. D'ailleurs, ça se voit sur les résultats, puisque ça a été vraiment piloté en lien avec la direction des ressources humaines. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on aurait des marges de manœuvre en termes de personnel en disant qu'il y a du personnel non essentiel. Et sur la situation financière de la ville, je pense que la Chambre régionale des comptes a quand même fait un rapport assez intéressant sur le sujet, démontrant quand même qu'il y avait un certain nombre de marges de manœuvre, que ces marges de manœuvre, elles ne sont pas que dues à une réserve qui existe, qu'elles sont dues, c'est dû aussi à une gestion, puisque aujourd'hui, vous voyez bien que dans la méthode et le cap, parce que vous dites qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de méthode, bah si, il y a quand même eu un certain nombre d'éléments, puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas que la capacité d'autofinancement descende en tout 3 millions d'euros, et le seuil d'alerte serait à 2,4 millions. Ça serait vraiment le seuil minimum pour pouvoir continuer à financer des investissements. Mais aujourd'hui, forcément, on arrive à un plateau par rapport à la capacité d'autofinancement, mais qui est un plateau prévu, puisque ça fait plusieurs années qu'on annonce qu'on sera autour de 3 millions. À chaque fois, on clôture avec un résultat un peu meilleur, parce que parfois, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en cours d'année, et parce qu'on sollicite aussi beaucoup nos partenaires, puisqu'on a un certain nombre de subventions, parce que contrairement à ce qui est dit sur le hall des sports aujourd'hui, on n'a pas que 80 000 euros, puisqu'on a eu un certain nombre de courriers de notification. Mais bien évidemment, il y a un certain nombre de choses qui sont versées plus tard. Et vous savez, Madame Gendreau, que ce n'est pas parce que vous livrez le bâtiment que vous avez fini de payer toutes les factures. C'est d'ailleurs pour ça que l'école Adélaïde Oval, on a encore clôturé un certain nombre de factures l'année dernière, alors que l'école avait déjà été livrée en septembre 2023. Donc forcément, ça sera en 2027, mais le hall des sports sera bien livré en fin d'année 2026. Ça, il n'y a pas de doute. Les études sur la halle gourmande du 1922, effectivement, ça a été un choix de finalement changer de projet par rapport à ce qui était prévu au départ, puisque finalement, on avait cette opportunité qui est apparue. Qu'en sortie de Covid, c'est vrai que la halle gourmande était compliquée à mettre en œuvre malgré les études qui étaient préexistantes et ce qui était possible de faire, puisqu'on a plutôt été dans un travail de soutien de nos commerçants qui existaient déjà dans la ville. On avait quand même travaillé pour relancer l'économie, puisque rappelez-vous, quand les commerces réouvraient, c'était quand même un sujet un petit peu compliqué, donc on a plutôt été dans ça. Et on a travaillé en parallèle ce sujet de la halle gourmande, et on a eu l'opportunité du 1922, puisqu'il y a un appel à projet qui a été ouvert, que les habitants ont pu s'exprimer et que les habitants ont plutôt orienté les travaux sur cette halle gourmande en disant il faut que ça soit un lieu d'aider à la gastronomie et un lieu plutôt avec cette halle gourmande. Donc on a fait des études. En ce moment, on a l'étude avec Bill Toki qui va bientôt être terminée, puisqu'on a d'ailleurs eu un rendez-vous très récemment avec le directeur général des services. Et l'architecte travaille sur justement la conception. Et donc, bien évidemment, c'est la façade devant qui doit être accessible. Et il y a des renforts du pont qui sont prévus dans le cadre des travaux. Et d'ailleurs, même dans les travaux de la halle gourmande et du 1922, il y a tout un travail de création de certains escaliers de secours et autres par rapport aux normes ERP. Donc, c'est justement bien pris. Et je vous dis, c'est quelque chose qui a été vu avec l'architecte. Et c'est pour ça que la halle gourmande, c'est intéressant, puisque c'est un peu comme je le disais sur la résidence senior avec le cercle, c'est un projet qui est accompagné par la ville, mais porté en partie par un acteur associatif. Là, la halle gourmande, c'est un projet qui est porté par la ville, mais qui doit être financé sur un modèle nouveau de partenariat public-privé, avec notamment la Banque des Territoires. D'ailleurs, la Banque des Territoires a déjà manifesté son intérêt parce qu'elle cofinance cette étude. Et par exemple, le nouveau gymnase à côté du Lixembul a été délibéré au conseil régional et donc il va être porté par le conseil régional sur la parcelle du lycée Le Corbusier à l'angle de la rue Le Corbusier et de la rue Lixembul. Et en fait, c'est un gymnase qui va permettre d'avoir des créneaux pour la ville et nos clubs, puisque en fait, le deal avec la région, c'est que la région porte l'investissement de départ et que la ville entretiennent le gymnase derrière. Et donc, je trouve que voilà, c'est des méthodologies de montage de projets qui sont tout à fait intéressantes, parce qu'en fait, avec nos partenaires, il y a certes les subventions nettes sur des projets portés 100% par la ville, mais je pense qu'on peut aussi trouver des partenaires pour parfois porter des projets pour l'intérêt collectif des îles Kirchoises et des îles Kirchoises, sans forcément que ça soit complètement porté entièrement en termes d'investissement par la ville. Donc, je pense que voilà. Mais en tout cas, je vous remercie pour ces éléments. Est-ce que d'autres souhaitent réintervenir? Sinon, on peut en rester là pour ce débat. Et donc, je vous propose juste de voter le fait qu'on a pris acte de ce débat, puisque c'est obligatoire désormais, Est-ce qu'il y a des votes contre le fait de prendre acte? Des abstentions? Unanimité, tout le monde a pris acte. C'est une bonne chose. On est au moins d'accord là-dessus. Et donc, on va... On va, on va